De Rahab, Salma eut pour descendant Bouz. De Ruth, Bouz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Ozias. Ozias eut pour descendant Yotam. Yotam eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Yéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abihoud. Abihoud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadoc. Sadoc eut pour descendant Ahim. Ahim eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Matan. Matan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. » Ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Ou parfois, on pourrait le traduire aussi « Dieu est au milieu de nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voici pour notre lecture aujourd'hui. Une des choses que j'ai, je pense, le plus entendue depuis que Zoé est née, c'est « Oh, blesse ta fille, elle ressemble tellement à ta femme !» Je sais. Oui, ma fille ressemble à ma femme. Je sais. Elle me ressemble aussi à moi. Vous n'avez jamais vu de photo de quand j'étais enfant, donc vous avez peut-être plus de mal à voir, mais elle me ressemble malgré tout. Et s'il s'avérait qu'elle ne ressemble que à Chantal physiquement, eh bien, elle me ressemble aussi dans mon caractère. Je sais donc que les années à venir seront sportives. Mais c'est intéressant de voir qu'un enfant ressemble toujours en quelque chose à ses parents. Jamais entièrement à l'un ou entièrement à l'autre, mais chaque enfant reçoit quelque chose de ses parents. Et nous ressemblons d'une certaine manière à nos parents. Et le temps passant, eh bien, nous développons aussi des traits de caractère et des habitudes qui ressemblent à celles de nos parents, ce qui est normal, puisque nous vivons avec eux et que ce sont eux qui nous enseignent et qui nous éduquent. Et la question que j'aimerais, à laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui, c'est eh bien, comment est-ce qu'on est touché, impacté par nos parents, par ceux qui nous ont précédés. Quel rôle est-ce qu'ils jouent aujourd'hui, à la fois le rôle positif, mais aussi le rôle parfois plus négatif. Et aujourd'hui, j'aimerais pour ça qu'on observe deux caractéristiques de la généalogie de Jésus, pour nous encourager à porter un regard réaliste sur notre propre vie. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter ce matin sur le fait que la généalogie de Jésus, eh bien, elle est faite de grandeur, mais aussi d'imperfection. Mais nous verrons aussi que la généalogie de Jésus, malgré ses grandeurs et ses imperfections, eh bien, elle conduit à l'accomplissement du plan de Dieu. Le but de Matthieu, lorsque Matthieu écrit son évangile, c'est de présenter Jésus-Christ comme étant le vrai Messie d'Israël et le vrai roi qu'Israël attendait. Et il le fait notamment au travers de sa généalogie, et il le fait aussi tout au long de son livre, au travers de la manière dont il montre que Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Si on s'arrête un peu sur cette généalogie, eh bien, on peut voir qu'on y trouve à la fois des personnes qui sont synonymes tout de même d'une certaine grandeur, de quelque chose de plutôt positif, mais on retrouve aussi des personnes qui, quand même, ont des vies marquées par l'imperfection et par la rébellion envers Dieu. J'aimerais qu'on prenne le temps de regarder quelques-uns de ces personnages. Vous vous doutez bien que c'est impossible de faire le tour de l'ensemble de ces personnages, mais j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur certains. Et Matthieu commence sa généalogie en parlant de Jésus et il dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. » Matthieu commence à citer David en tout premier lieu dans cette généalogie de Jésus. Et on comprend bien que ça a un rôle particulier, parce que si Matthieu avait simplement voulu donner une généalogie, je dirais chronologique, il n'aurait pas commencé à parler de David, puisque chronologiquement, David est venu après Abraham. Mais être de la descendance de David, être fils de David, c'est un titre royal, c'est un titre messianique. Et je l'ai dit juste avant, le but de Matthieu, c'est de montrer que Jésus, il est descendant de David en tant que roi. Le but de Matthieu, c'est de montrer que Jésus est bien le roi qu'Israël attendait. Et dès l'ouverture de son évangile, il le dit, voici la généalogie de Jésus-Christ qui est de la descendance de David, qui est fils de David. Il est de la descendance du roi David. Et on peut voir un peu plus loin qu'il est dit que de Ruth, Bouz eut Obed, Obed eut Esaïe et Isaïe eut pour enfant le roi David. C'est intéressant de voir qu'il n'y a que David qui reçoit le titre de roi dans cette présentation, alors que des rois, il y en a plein dans cette généalogie. Si on connaît un peu l'histoire des rois d'Israël, on se rend compte qu'il n'y a pas que David qui était roi dans cette histoire. Salomon et puis ceux qui suivent étaient rois aussi. Mais Matthieu veut montrer qu'il y a dans cette généalogie de Jésus un roi particulièrement important qui est le roi David. Et c'est intéressant de voir qu'au verset 2, il dit qu'il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, que Jacob a eu pour descendant Judas et ses frères avec lui. Et c'est intéressant de voir qu'il ne cite pas tous les frères, mais il parle de Judas d'une manière particulière. Parce que c'était de la tribu de Judas que David venait, et c'était de la tribu de Judas que le Messie devait venir. Matthieu met en relation ces choses-là pour pointer dès le début vers le fait que ce Jésus qui est bien de la descendance de David, il a quelque chose de ressemblant à David. Et nous savons, nous qui avons le Nouveau Testament, que Jésus a accompli pleinement ce que David avait annoncé. David annonçait de manière imparfaite des choses sur Jésus. Et Jésus est venu les accomplir d'une manière parfaite. David, ce berger né à Bethléem qui devient roi, ne fait qu'annoncer celui qui, étant roi, se fait homme pour devenir notre berger, mais aussi notre roi, en naissant lui aussi à Bethléem. Oui, Jésus-Christ a dans sa généalogie ce roi David qui annonçait la venue de Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette généalogie, pour un juif qui découvrirait l'Évangile. J'ai écouté et j'ai regardé ces dernières semaines beaucoup de témoignages de personnes juives qui ont rencontré Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et elles disaient, moi, toute ma vie, toute mon enfance, les rabbins et mes parents, ils m'ont dit, ne lis pas le Nouveau Testament parce que c'est un livre antisémite. Et ils disent, j'ai ouvert le Nouveau Testament et j'ai découvert que c'est une histoire qui se passe dans un pays juif, dans une ville juive, avec quelqu'un qui a un nom juif, qui va à la synagogue et qui fait les fêtes comme les juifs. Et en plus, j'ai appris qu'il était de la descendance de David, qui est juif, et d'Abraham, qui est juif. Et il disait, mais quand même, moi, ça me semblait bien juif, tout ça. Pour un juif qui lit le Nouveau Testament, c'est extraordinaire parce qu'il découvre que Jésus est descendant d'une lignée royale et que du coup, il peut être pleinement le roi d'Israël, lui aussi. Et nous qui ne sommes pas juifs, nous pouvons reconnaître en Christ aussi notre propre roi. Parce que Christ n'est pas juste roi pour les juifs, il est roi pour ceux qui, dans toutes les nations, se tournent vers lui pour le recevoir comme Seigneur et comme Sauveur. Mais Jésus est aussi dit, il est aussi dit qu'il est de la descendance d'Abraham. Alors nous voyons qu'il est généalogiquement, de manière biologique, merci Maxime, il est de manière biologique bel et bien descendant d'Abraham, puisqu'on voit que les personnes qui suivent Abraham eh bien, nous amènent jusqu'à Christ. Et c'est aussi une façon de dire, mais Jésus était bien juif, parce que le titre de fils d'Abraham, c'est un titre qui est donné à ceux qui sont juifs et qui viennent après Abraham, qui sont de la descendance physique d'Abraham. Il descend de ce patriarche, notre Jésus. Et c'est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste va dire « Mais il ne suffit pas de se dire fils d'Abraham pour être sauvé. » Il va dire ça aux pharisiens, il va dire « Mais vous dites, mais nous on est fils d'Abraham. » Mais il dit « Mais si Dieu voulait, il pourrait faire que ces pierres-là, elles soient fils d'Abraham aussi. » Et nous comprenons qu'il y a quelque chose de plus grand, de supplémentaire, de plus important que d'être simplement juif. Et que du coup, si ici Matthieu nous parle de Jésus comme étant de la descendance d'Abraham, eh bien son but, ce n'est pas simplement de nous dire « oui, Jésus était bien juif », mais c'est de nous faire comprendre quelque chose de plus grand, qui va plus loin que juste le fait que Jésus soit juif. Abraham, on parle de lui en parlant de celui qui était le père de la foi, parce que Dieu a mis sa foi à son crédit, il a reçu la justice de Dieu parce qu'il a eu foi, il a eu confiance en Dieu. Et ensuite est venu le signe de la circoncision comme signe de l'alliance. Et il a reçu cette promesse qu'il aurait une descendance qui serait plus nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Merveilleuse promesse que celle qui a été faite à Abraham. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que Jésus est celui sur qui se porte notre foi. C'est celui en qui nous pouvons placer notre foi, notre confiance pour nous aussi être sauvés, comme Abraham avait mis sa confiance en lui, en Dieu. Oui, Jésus est, d'un point de vue biologique, de la lignée d'Abraham, mais il accomplit quelque chose de plus grand qu'Abraham, qui est en rapport avec cette foi qu'Abraham avait. La vie d'Abraham, elle est loin d'être exempte d'imperfections ou d'erreurs. Mais Dieu lui a accordé sa justice à cause de sa foi. Et Christ est celui qui vient parachever, accomplir cette œuvre de foi à la perfection. Et Matthieu veut que ses lecteurs comprennent cela. Ce Jésus dont il présente la généalogie et dont il va présenter la naissance, ce Jésus est fils de David. Il est de cette lignée royale. Il a le droit de revendiquer le trône de David. Et en plus, il accomplit quelque chose en rapport avec la foi. Cette foi que tous les croyants de l'Ancien Testament ont eue, eh bien, il la porte à son apogée. Tous ces gens ont cru en Dieu. Ils n'ont pas vu de leurs yeux le Messie, mais ils ont cru en Dieu, ils ont eu confiance en lui. Et Dieu les sauve par le sacrifice de Christ. Il les sauve par anticipation, sachant que ce sacrifice allait venir. Oui, David et Abraham, il est vrai, n'étaient pas des personnes parfaites. Nous connaissons leur histoire. Nous savons ce qu'il a pu se passer dans leur vie. Nous savons les choses qui ne sont pas très bonnes, mais nous ne devons pas non plus oublier toutes les bonnes choses de leur vie. Mais nous voyons que même si cette généalogie commence finalement avec deux grands personnages, deux grandes figures du peuple juif, eh bien ça ne garantit pas forcément que le reste de la généalogie soit pour autant parfaite. Même la généalogie de Jésus connaît ses imperfections. Salomon aussi est cité dans cette généalogie. Et quand on pense à Salomon, on pense à beaucoup de bonnes choses, hein. Moi, quand j'étais petit, quand on parlait de Salomon, je pensais toujours à l'histoire du bébé coupé en deux. Enfin, qu'on a voulu couper en deux, hein. Il n'a pas été coupé en deux, bien entendu. Mais je me disais toujours, mais si c'était rien passé, est-ce que vraiment ils auraient coupé le bébé en deux ? Et question encore plus saugrenue, mais j'étais tout petit, je me disais, ils l'auraient coupé en deux comment ? Au niveau du bassin ou comme ça ? C'était des questions qui me travaillaient, mais on pense toujours à cette grande sagesse de Salomon, à cette sagesse inégalée aujourd'hui pour un simple homme. Salomon, ce roi qui a dit à Dieu, « Je ne te demande pas des richesses ou quoi que ce soit, ce que je te demande, c'est la sagesse pour guider ton peuple. » Et Dieu lui a dit, je te l'accorde, mais je t'accorde aussi ce que tu n'as pas demandé. Eh bien, c'est intéressant de voir en Matthieu 12, verset 42, que Jésus dit, la reine du midi, la reine de Saba, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et elle la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ce que Jésus dit, mais il y a plus que Salomon. Jésus parle de lui-même. Il y a plus que Salomon. Il y a eu un homme qui a eu plus de sagesse que Salomon lui-même. C'était Christ parce qu'il était non seulement homme, mais qu'il était aussi Dieu. Jésus dépasse de loin Salomon en sagesse. Salomon, il ne fait qu'annoncer finalement l'image d'un roi qui viendra et qui aura une sagesse plus grande que lui, le Christ. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez vu comment Matthieu parle de Salomon ? Regardez comment est-ce qu'il en parle. Au verset 6, « Obed eut pour descendant Isaïe, Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. » De la femme d'Uri. Loin de moi l'idée de vouloir balancer des pierres sur le roi David. Mais Matthieu, dans la manière dont il présente les choses, montre que cette généalogie de Christ est, oui, elle aussi touchée par l'imperfection des hommes qui l'ont précédé. Et que notamment, une de ces imperfections, c'était qu'il y a eu cet adultère entre David et Bathsheba. Et que oui, le roi Salomon est sorti de cette généalogie, il est là dans cette généalogie, il provient de cette union, mais que cette union était quand même une union qui n'était pas correcte, pas bonne. Et vous connaissez hein, l'histoire de Bathsheba et de David, je ne la referai pas. Mais pour autant, eh bien, il n'est pas pour nous bon de dire « Ah ben tout est noir, tout est blanc, voilà, il n'y a rien de bien » ou alors « Tout est bon et puis on fait fi de ce qui n'était pas bien, etc. » Mais on voit que cette généalogie, elle se développe devant nos yeux avec des choses extrêmement bonnes et des choses qui sont moins bonnes, des choses qu'on aimerait imiter. Moi, j'aimerais que Dieu dise de moi que je suis un homme selon son cœur et j'espère que c'est le cas. Et il m'est arrivé une fois ou l'autre de demander à Dieu de me donner, si c'était possible, à peine moins de sagesse que Salomon. Mais nous voyons ici qu'il y a de l'honnêteté dans la manière dont Matthieu présente la généalogie de Jésus. Il aurait très bien pu simplement citer tous les hommes qui étaient plutôt bons ou tous les rois qui avaient été au service de Dieu et puis passer un peu, finalement, sous couvert des autres. Mais il ne l'a pas fait. Matthieu a présenté cette généalogie d'une manière réaliste, sincère, vraie, véritable. Josias, c'est un de mes rois préférés. J'ai énormément aimé Josias quand on a appris l'histoire d'Israël à l'Institut biblique. Parce que Josias, c'est celui qui retrouve le rouleau de la loi dans les ruines du temple. Et il dit maintenant, c'est comme ça qu'on va vivre. Parce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on vive. Et maintenant, on va remettre les choses en ordre. On va remettre la loi de Dieu en vigueur. C'est dans le livre de Deux Rois, les chapitres 22 et 23, si vous avez envie de creuser cette histoire-là. Et pourtant, est-ce que vous avez vu qui est son grand-père ? C'est Manassé, son grand-père. Manassé qui a été qualifié de plus mauvais, plus méchant roi d'Israël. Et quand on lit son histoire, elle n'est pas glorieuse hein, à Manassé. On est passé du pire roi d'Israël à celui qui décide de rétablir la loi parce qu'il a retrouvé le rouleau de l'Alliance. Et du coup, il veut, ce Josias, que le peuple vive comme Dieu le veut. Et il ne regarde pas, ben, ah, il y a deux générations, c'était terrible, hein, mon grand-père était le plus mauvais roi d'Israël, ben, tant pis, c'est fini, quoi, c'est fichu alors. Non. Il y a dans la généalogie de Jésus, effectivement, des choses extraordinaires et des choses extraordinairement mauvaises. Mais ça n'empêche pas Dieu de dérouler l'histoire comme il l'a décidé et comme il l'a voulu. Et il y a quelque chose, et c'est là que j'aime aussi ce que le Seigneur inspire à ses auteurs. À l'époque, on ne met pas de femme dans la généalogie. Ça ne se fait pas. Mais Matthieu le fait. Et le comble, c'est qu'elles ne sont même pas juives. Rahab et Ruth. Matthieu les met dans cette généalogie de Jésus et il montre que la vie de Jésus, elle vient au travers d'une généalogie où il y a même des gens qui ne sont pas juifs, mais qui se sont attachés au Dieu d'Israël de tout leur cœur. Et on devine déjà ici que Jésus n'est pas juste le Jésus pour les juifs, mais qu'il est le Jésus pour l'humanité tout entière. Nous, ça ne nous choque pas vraiment. Hein. On est même là un peu, bah, heureusement qu'il y a des femmes quand même. Hein. Ça suffit maintenant le patriarcat. Mais pour l'époque, c'est absolument pas normal. C'est pas logique, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais Matthieu le fait parce que Matthieu sait que ces deux femmes ont eu un rôle important à jouer dans la venue du Messie, dont il est en train de dire la généalogie. Je ne sais pas si on mesure bien l'importance de ces deux personnes dans cette généalogie. Au verset 5 de Rahab, Salma eut pour descendant Bouze. Et on sait tous qui c'est Bouze, quand on connaît l'Ancien Testament. Et Bouze, il nous est dit qu'il s'est marié avec Ruth et qu'ils ont eu pour descendant Obed. Obed, lui, il a eu pour descendant Isaïe. Et Isaïe, il a eu pour descendant le roi David. Si vous barrez Rahab et Ruth de l'histoire, ça devient compliqué. Alors en réalité, non, parce que si ce n'était pas comme ça que Dieu avait voulu faire, il aurait fait autrement. Et puisque c'est comme ça qu'il a voulu faire, c'est comme ça qu'il l'a fait. Mais c'est important pour nous de réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas très logiques pour l'époque de Matthieu, pour l'époque de Jésus, mais que Dieu ne cherche pas spécialement à faire les choses d'une manière logique. Dieu veut montrer ce que lui a décidé de faire. Nous voyons bien qu'il y a dans cette généalogie des personnes imparfaites, des personnes qui sont touchées par le péché. Nous voyons même que des fois, il y a récurrence de péché entre certaines personnes. Et en même temps, nous voyons aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la foi en Dieu, dans le Dieu d'Israël, même des non-juives. Et que Dieu utilise ces personnes pour dérouler l'histoire jusqu'à la venue du Messie, comme il a décidé qu'il allait le faire. Matthieu ne nous fait pas croire que Jésus vient d'une lignée parfaite, d'une lignée de rois toujours fidèles à Dieu, qui ont eu que des réussites dans leur vie. Mais Matthieu nous montre que Dieu a été souverain sur la manière dont il a voulu faire venir son Fils dans le monde, et que ce n'est pas l'imperfection des gens qui ont précédé Jésus qui ont pu ou qui auraient pu empêcher cet accomplissement. Dieu va et voit bien au-delà des imperfections de la généalogie de Jésus. Dieu a décrété que c'était par ces personnes-là que viendrait le Messie. Et quand il l'a décrété, il savait qui étaient ces gens, comment ils seraient, comment ils réagiraient, les décisions qu'ils prendraient, les choix qu'ils feraient. Mais Dieu a dit, c'est par ces gens-là que je vais faire venir le Messie d'Israël et du monde. Et on peut voir effectivement qu'à la fin de cette généalogie, eh bien, il y a la manière dont Jésus est venu au monde. La généalogie de Jésus, elle conduit à l'accomplissement du plan de Dieu. Matthieu, il écrit cette généalogie parce que, comme je vous le disais, eh bien, il veut montrer que Jésus, il est bien qui descend bien d'une lignée royale. Il vient bien de la tribu de Judas. Mais il écrit aussi, Matthieu, cette généalogie pour montrer comment est-ce qu'au travers d'elle, eh bien, Dieu a conduit le cours de l'histoire du monde, notamment pour accomplir des prophéties qu'il a communiquées à Israël par ses prophètes des centaines et des centaines d'années avant. Matthieu, il dit, eh bien, la naissance de ce Jésus dont je viens de vous donner la généalogie, eh bien, la naissance de Christ, elle accomplit une prophétie qui avait été donnée par le prophète Ésaïe et qui dit « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous, Dieu au milieu de nous. » Et c'est intéressant hein, parce que Matthieu y présente Joseph comme faisant partie intégrante de l'accomplissement de cette prophétie. Nous, on aurait souvent tendance à dire « Joseph, c'est le père de Jésus, mais ce n'est pas vraiment le père de Jésus. Le vrai père de Jésus, c'est Dieu. » Mais la Bible prend prend parti pour dire « Dieu a choisi Marie comme jeune fille vierge pour qu'elle enfante le Christ, mais il n'a pas pris Joseph par défaut parce que, ben zut, ils étaient fiancés, du coup, bon, je le prends quand même, quoi, on va lui trouver un rôle. » Dieu a choisi Marie et Joseph ensemble. Jacob eut pour descendant Joseph. Joseph n'était pas roi, mais il fait partie de la descendance, de la généalogie de Jésus. Nous, on aurait parfois tendance à un peu lui donner un petit rôle, un rôle peu important. Parce que finalement, après, en plus, il disparaît un peu, on ne sait plus trop. Après les 12 ans de Jésus, quand Jésus est au temple et qu'il enseigne, on n'entend plus parler de Joseph. Il est décédé sans doute, puisqu'après, même pendant le ministère de Jésus, on n'en entend pas parler. Mais nous, on a souvent envie un peu de plus porter nos regards sur Marie, quoi, de plus l'aimer. Mais Joseph a une telle importance ici. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à la manière dont le texte biblique présente Joseph. Joseph, il apparaît comme tellement différent des rois qui l'ont précédé. Alors, il n'était pas parfait, hein, on n'est pas naïf non plus. Mais au verset 19, il nous est dit que c'était un homme juste, qu'il ne veut pas livrer Marie au déshonneur quand il apprend qu'elle est enceinte. Parce qu'il pense, voilà, que ben, sans doute, elle a eu des relations avec un autre homme. Mais même malgré ça, il ne veut pas la livrer au déshonneur. Malgré ça, il est prêt à arrêter les fiançailles d'une manière à ne pas tout ébruiter. Et on voit qu'il est obéissant à la parole de Dieu qui a été transmise par l'ange. Donc je lui dis, non, ne romps pas tes fiançailles. Ne fais pas ça. L'enfant que Marie est là, ce n'est pas un homme qui lui a donné, c'est Dieu qui le lui a donné. Et il dit, il faut que tu restes avec Marie et cet enfant, tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus, ça veut dire l'Éternel sauve. Et on voit qu'il est obéissant. Parce que, verset 24, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Je ne sais pas si moi, j'avais eu une apparition et qu'un ange m'avait dit « Ta future femme est enceinte, mais elle n'est pas enceinte d'un homme, c'est par l'œuvre de Dieu que c'est arrivé, alors reste avec elle et marie-toi avec elle comme tu as prévu. » Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais ressenti, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais on a l'impression que pour Joseph, c'est facile. Alors, sans doute le texte biblique ne nous raconte pas toutes les pérégrinations qu'il y a eu dans la tête de Joseph, hein. Il a quand même réfléchi à ces choses-là. Hein. Il était quand même en pleine réflexion quand l'ange lui est apparu. Mais il fait ce que l'ange lui a dit. Et quand Christ naît, il est dit, « À son réveil, Joseph, du coup, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Dieu s'est servi de Joseph, qui n'est pas le père biologique de Jésus, on est tous d'accord avec ça, mais il a mis Joseph dans l'histoire et dans l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Joseph a une part extrêmement importante. L'ange lui dit, il faudra que tu appelles ton fils Jésus, parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés, et on voit qu'une fois que Jésus naît, eh bien, Joseph lui donne le nom de Jésus. Toute la généalogie de Jésus nous conduit jusqu'à Joseph qui se marie avec Marie. Ils ont un enfant qui vient du Seigneur et cet enfant accomplit une prophétie. La généalogie, vous vous rendez compte, si on avait... Abraham reçoit cette promesse qu'il aura une descendance plus nombreuse que les grains de sable de la terre. Et cette généalogie-là, elle commence avec Abraham, elle se finit avec la naissance de Christ. Et on voit tous ceux qui ont eu la foi comme Abraham, qui sont cette descendance si nombreuse. Mais pour arriver jusque-là, eh bien, il a fallu passer par des choses parfois extrêmement dures, extrêmement pernicieuses, mauvaises. Il y a eu des rois extrêmement mauvais en Israël. Et en même temps, Dieu montre aussi, mais ce que j'ai prévu, ça va s'accomplir. C'est moi qui décide qui monte sur les trônes et qui en descend. Et il y a ces successions de rois qui nous conduisent jusqu'à la venue de Christ. Il n'y a que Dieu qui peut réaliser ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose d'aussi extraordinaire qu'avec des hommes parfois tellement tordus et vendus au péché, eh bien, il arrive quand même au travers de ces personnes à amener jusqu'à la naissance du Messie. si c'était un récit purement humain, je ne suis pas certain qu'on aurait choisi des gens comme ça dedans. On aurait plutôt voulu donner une image un peu plus brillante quand même, hein, du christianisme. Dieu a accompli cette prophétie au travers de Christ, en passant par toutes ces personnes, parce que c'est lui qui écrit l'histoire du monde et qui la décide. C'est lui qui est souverain sur toutes ces choses-là. Il était souverain quand Manassé était roi, mais il était aussi souverain quand Josias était roi. Il était souverain lorsqu'il y a eu des femmes non-juives qui sont entrées dans la généalogie de Christ, et il a été souverain lorsqu'il nous a sauvés, nous, majoritairement des non-juifs, pour faire de nous son peuple. Christ a mené à bien la mission que son père lui avait confiée, sans regarder à ses ancêtres, à leurs erreurs, parfois même des erreurs répétées, ou à leurs traits de caractère qui parfois étaient condamnables. Dieu, il a fait sortir du milieu d'hommes pécheurs celui qui, étant parfaitement Dieu et parfaitement homme, a pu amener le salut à quiconque le reconnaît comme sauveur et comme Seigneur. Jésus rappelle en Jean 8, les versets 31 à 32, que « celui qui vit selon la parole de Christ est vraiment son disciple et qu'il connaîtra la vérité et que la vérité le rendra libre. » Nous avons été libérés par Christ du péché et de la condamnation qui découlait de ce péché. Mais nous avons aussi été libérés du péché pour que l'image de Christ, elle puisse se former chaque jour en nous. Nous, souvent, on se dit « Waouh, je suis sauvé, je ne serai pas condamné. Hein. Ouh, ça va, je regarde l'avenir avec... je suis confiant, ça va. » Mais est-ce qu'on comprend aussi que dans notre vie de tous les jours, cette victoire sur le péché, on peut la vivre? Il y a une question que je pense qu'on doit se poser. C'est quoi ma généalogie? C'est qui les gens qui m'ont précédé? Comment ils étaient? Alors, le but, ce n'est pas de dire qu'ils étaient tous nuls, tout était mauvais, ou de dire qu'ils étaient tous super bons, il n'y a rien à redire. Mais est-ce qu'on est capable de regarder à ceux qui nous ont précédés et de regarder d'un regard réaliste ceux qui ont été avant nous? Est-ce que dans ce que j'ai reçu de ceux qui m'ont précédé, est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui empêchent l'image de Christ de s'inscrire vraiment pleinement en moi chaque jour? De quoi est-ce que j'ai besoin d'être encore libéré, délivré par Dieu grâce à Christ? Et j'aimerais ici pointer, pas spécialement sur les oppressions spirituelles ou autres qui peuvent exister, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais j'aimerais pointer le doigt vers une autre facette du combat qu'on est appelé à mener. J'aimerais qu'on puisse parler des choses qui ne nous paraissent peut-être pas spirituelles comme ça dans un premier lieu, dans un premier temps. Et qui, du coup, des fois, ces choses-là, elles nous paraissent un peu plus difficiles à voir, à mesurer, à quantifier, parce que, eh bien, on n'a pas l'impression qu'il y ait une oppression ou quoi spirituelle sur nous au travers de ça. Et j'aimerais vous donner trois exemples pour que vous puissiez peut-être un petit peu mieux comprendre de quoi je veux parler. Des fois, on dit, il y a eu de l'occultisme, il y a eu de la sorcellerie, etc. Donc, on prie pour que le Seigneur libère de tout ce qui pourrait éventuellement encore rester, des malédictions qui auraient pu être données ou autres. Mais moi, je n'ai pas vécu ça, il n'y avait pas ça dans ma famille. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui m'empêchaient de vraiment avancer avec le Seigneur. Des choses plus pratiques, des choses presque un peu, je dirais, de la vie normale. La première chose, c'était mon rapport à l'argent. Je ne viens pas d'une famille très riche. Je viens même d'une famille qui avait plutôt des difficultés d'argent. Et du coup, quand moi, je me suis mis à avoir assez d'argent pour vivre, je me suis rendu compte que j'avais un déséquilibre dans ma manière de vivre l'argent. Soit j'en avais beaucoup, et du coup, j'avais envie d'en dépenser pour avoir des choses dont je n'avais même pas forcément besoin. Soit j'avais envie de rien dépenser pour tout garder au cas où un jour, j'en aurais plus. Mais aucune de ces situations n'est normale et équilibrée. Et j'ai dit au Seigneur, mais je crois que la vérité, c'est qu'en fait, j'arrive pas à avoir confiance que toi, tu vas toujours me donner ce qu'il me faut. Et j'ai vécu tellement dans une famille où je pouvais pas forcément toujours avoir ce que je voulais. Alors, pas avoir tout ce qu'on veut, c'est pas grave. Il y a des choses dont on n'a pas besoin. Mais je me suis rendu compte que c'était un vrai problème pour moi. pas l'argent en soi, mais le fait que j'avais du mal à faire confiance à Dieu pour ça. Et que du coup, si j'avais de l'argent, ben, je ne savais même plus vraiment quoi en faire et comment le gérer. Et j'ai dû demander au Seigneur de changer ça dans ma vie. Et ça, je l'ai hérité de mes parents. Ce n'est pas leur faute, ils n'ont pas voulu ça pour moi. Mais ce que j'ai vécu dans mon enfance, eh bien, ça m'a amené à avoir ce rapport disproportionné avec l'argent. Ça, c'est la première chose que moi, j'ai réalisé qu'il fallait que Dieu change pour moi, pour que je puisse être vraiment en paix et que je puisse vraiment grandir dans la confiance. Vous comprenez peut-être un peu mieux ce que je veux dire quand je dis des choses pas ouvertement spirituelles. La deuxième chose, c'est que je viens d'une famille d'enseignants. Mon grand-père était inspecteur à l'éducation nationale et ma grand-mère était ce qu'on appelle maintenant professeur des écoles. Du coup, ils ont toujours mis très haut la barre pour les résultats scolaires. Le rêve de ma grand-mère, c'était que je devienne notaire. Je ne sais pas trop pourquoi, hein, sans doute parce que c'était bien payé, puis ça faisait bien de se faire appeler maître. Je ne sais pas. Mais après, elle s'est convertie et elle a changé. Et quand j'y repense, ben c'est ça que je garde. Mais du coup, ma mère, surtout, pas trop mon père, mais ma mère mettait la barre très très haut pour mes résultats scolaires. Si j'avais 19, c'était... Fais attention, tu aurais eu le point qui manque. J'ai fait mieux que tout le monde. Oui, mais tu n'as pas fait mieux que ce que tu aurais pu faire. Et je peux vous dire que c'est très très dur de vivre toute sa scolarité comme ça. De me dire, j'ai eu que 17, je vais encore me faire disputer. Encore une fois, ce n'est pas pour condamner mes parents. Hein. Absolument pas. Mais ma mère avait vécu, de la part de ses parents, ce qu'elle reportait sur moi. Et moi, je me suis rendu compte que je reportais ça aussi sur Chantal, pour commencer, mais sur vous. Ou, quand j'écoutais une prédication, je me disais, « Ah, ça, faudrait que je dise ça, ça n'est pas trop bien. » Et un jour, le Seigneur m'a dit, « Mais tu ne peux pas voir ce qui va bien aussi. Tu ne peux pas te rendre compte qu'il y a des choses bien. » Et j'ai dit au Seigneur, mais je sais qu'il y a des choses bien, mais les choses bien, voilà, elles sont là, elles sont acquises, il faut améliorer le reste. Et Dieu voulait que je comprenne que j'ai été marqué par mes grands-parents et par mes parents. J'ai été marqué dans cette idée que rien n'était jamais assez bien. Et une des premières choses à laquelle je pense quand je quitte la chair, c'est j'ai trop prêché, c'était trop long. Et pour moi, c'est une vraie souffrance. Je travaille, hein, ça va mieux, et j'ai encore des choses qui doivent changer, pour ne plus me culpabiliser, mais aussi pour me maintenir mieux dans le temps, je le sais. Hein. Mais je me suis dit, pourquoi je suis comme ça? Et le Seigneur m'a montré, mais on t'a élevé comme ça. C'est ce que ta mère a reçu de ses propres parents, et toi, tu le reçois aujourd'hui. Et moi, je ne veux pas redonner ça à Chantal dans mon couple, je ne veux pas vous redonner ça à vous en tant que mes frères et sœurs, et je ne veux pas redonner ça à ma propre fille. Mais il a fallu que Dieu mette le doigt dessus pour que je comprenne comment l'éducation et mes ancêtres, les gens avant moi, ont influé sur moi. Surtout qu'on me disait toujours, il faut que tu réussisses. Ton arrière-grand-père, il était paysan. Regarde le chemin qu'on a parcouru. Parce que c'est une honte d'être paysan. Et la troisième chose, et je pense que c'est peut-être celle dont je suis le plus heureux, je dirais. Mon grand-père paternel a fait la guerre d'Algérie. Une page de l'histoire de France, voilà, qu'on aimerait peut-être parfois oublier, qu'on n'aime pas vraiment aborder. Et il en est revenu marqué par un racisme profond. Il était chef de ligne chez Peugeot. Et mon père m'a dit un jour, tu sais, ton grand-père, il n'a jamais serré la main des personnes noires. Parce qu'il disait, moi, je ne leur serre pas la main parce que leur peau, elle est bizarre. Mon grand-père était un homme qui disait ça et qui pensait ça. Ce n'est pas de ça dont je suis fier. Ce dont je suis fier, c'est que, deux générations plus tard, moi, je peux m'occuper de personnes qui viennent d'Afrique, qui viennent des Antilles, qui viennent de la métropole, et que, au-delà de pouvoir leur serrer la main, ben, je peux les aimer. C'est extraordinaire. Hein. C'est juste deux générations. Hein. C'est rien du tout. C'est Manassé, son fils, et Josias. Moi, je dis jour au Seigneur, mais Si mon grand-père avait su que j'allais me marier avec une juive, je ne sais pas trop ce qu'il aurait pensé, hein, mais je me dis, mais Seigneur, t'as brisé ça aussi. Moi, je pourrais être raciste comme mon grand-père, même pire. Mais aujourd'hui, je peux venir vers vous et je m'en fiche, en fait, de la couleur. Je m'en fiche de la peau ou quoi. Je vous aime. Et on est frères et sœurs. Mais c'est Dieu qui a arrêté ça. C'est Dieu qui a arrêté ça. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je viens d'une généalogie aussi imparfaite. J'aime les gens qui m'ont précédé, mais je reconnais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des questions à se poser pour nous-mêmes. Et une des premières que j'aimerais vous donner, pour que vous la preniez chez vous, que vous y réfléchissiez, que vous vous placiez devant le Seigneur, c'est de dire, mais qu'est-ce que j'ai reçu peut-être de mes parents? Qu'est-ce que j'ai hérité de mes parents ou des gens avant mes parents? Les choses spirituelles, mais aussi les choses peut-être, entre guillemets, moins spirituelles, comme celles que je vous ai partagées. Des convictions, hein, des raisonnements, des attitudes, des façons de faire, des pensées. Vous savez, une des choses qui me blesse le plus, c'est quand on dit « Tu viens d'où ?» Ah, moi, je suis super content de dire que je viens d'Alsace, j'aime tellement ma région. Et les gens, ils me disent « Ah, mais tu parles allemand, alors ?» Bah, jusqu'à preuve du contraire, l'Alsace, c'est la France. Hein, Non, mais t'es un peu allemand, quand même. Non, ma mère vient de la Lozère et mon père, il est des Vosges. Mais t'es un peu allemand, quand même. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est extrêmement blessant. Parce que c'est aussi du racisme. Même si je sais qu'aujourd'hui, la pensée populaire du monde, c'est de dire le racisme contre les Blancs, ça n'existe pas. Ça existe. Et moi, quand on me dit « tu es allemand », je dis « non, je ne suis pas allemand, je suis français ». Oui, je viens d'une région qui a été ballottée entre France et Allemagne, mais vous n'avez aucune idée, ce que je dis aux gens, hein, pas à vous, hein, mais vous n'avez pas idée de combien est-ce que les gens qui m'ont précédé, ils ont souffert de ces choses-là. Je suis français, je n'ai rien contre les Allemands, mais je suis français. Voilà. Mon père, il dirait « mais tu n'es pas vraiment alsacien, nous, on n'est pas alsacien ». Je lui dirais « si, je suis alsacien, parce que je suis né en Alsace ». J'aime l'Alsace et je veux que beaucoup plus de personnes soient sauvées en Alsace. Même si on est très, très, très bénis en nombre d'églises et tout ça. Hein. Hein, mais qu'est-ce qu'il y a encore qui me reste des gens qui m'ont précédé? Et là, je vais vous parler peut-être plus à vous qui êtes originaire des Antilles ou d'Afrique. Mais qu'est-ce qui reste en nous de l'esclavage, de la colonisation? Moi, je ne suis pas fier de ce que les Français ont fait dans les colonies en Afrique ou autre. Mais moi, je n'ai rien fait en soi. En moi-même, moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui reste peut-être un peu du racisme en moi? Parce que le blanc, c'est peut-être un peu quand même le colon. Hein. C'est quand même un peu l'esclavagiste. Mon idée, ce n'est pas de dire l'esclavage, la colonisation, le racisme, ça, c'est des choses qui n'existent pas. Hein. Non, non. Je nie pas ce qui s'est passé et il y a eu des horreurs qui ont été faites. Mais est-ce que des fois, même nous, dans l'Église, on n'est pas encore un peu marqués par ces choses-là? Je ne prétends pas qu'il suffit de faire ça et puis la page elle est tournée, on ne pense plus à ces choses-là, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tout, ce n'est pas ça. Hein. Mais est-ce qu'on n'est pas des fois touchés nous-mêmes par ça et est-ce que ça ne nous gêne pas à avoir des vraies bonnes relations fraternelles? Je crois que c'était avec Samuel, Ginette et tout ça, quand on a préparé, je leur disais, quand je suis retourné dans mon église d'où je viens en Alsace la dernière fois à Noël, je les ai regardés et j'étais là genre, oh, ils sont tellement blancs. Mais ça me fait bizarre maintenant. Alors qu'au début, ça me faisait un peu bizarre parce que je me disais, il n'y a pas beaucoup de blancs ici. Mais ça, c'est des vieilles choses qu'on ne devrait pas avoir en nous. Moi, j'aimais mon église là-bas et je vous aime ici de la même manière. Et vous savez, moi, il y a une chose récemment qui m'a quand même un peu choqué. Alors, est-ce que certains d'entre vous ici, vous avez vu le film Black Panther? Bien. Eh bien, moi, je vais vous dire, je n'aime pas ce film. Je ne parle pas d'un point de vue cinématographique. Je n'aime pas ce film parce que ce film a ramené dans l'église des regains du Black Power. Nous, les Noirs. Je n'aime pas ce film parce que ce film, il nous dit « Vous êtes Africain, vous êtes Noir, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ce que vous êtes, c'est que vous êtes Africain. Retrouvez la gloire de vos ancêtres, la gloire de l'Afrique, la gloire d'être noir. Hein ? On revendique une position, une valeur parce qu'on est noir. J'espère que le terme, ça ne vous choque pas. Hein. Je ne sais pas s'il y a un autre terme qui va mieux, mais parce que je ne veux pas du tout choquer qui que ce soit. Mais, et je crois qu'en fait, on ne devrait pas accepter ça. Et j'ai vu même, alors sur les réseaux sociaux surtout, hein, des chrétiens, hein, d'ailleurs souvent des jeunes, hein, parce que bon, le Black Panther, c'est un Marvel, ça intéresse moins les gens plus âgés, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient « Mais c'est extraordinaire, c'est formidable ce film !»« Ah, c'est vrai, nous les Africains !» Si l'apôtre Paul, il était là, il dirait, il n'y a plus d'Africains. Hein. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Hein. Il n'y a plus d'Africains, il n'y a plus d'Antillais, il n'y a plus de Blancs. Il n'y a même plus d'Alsaciens. Moi, j'aime pas ce film parce que je trouve que ce film, eh bien, il nous fait revendiquer qu'il y a une différence, même pour nous, dans l'Église. Je ne dis pas que cinématographiquement, il est mauvais ou quoi, hein, j'en sais rien. De toute façon, avec Chantal, on n'a pas regardé assez longtemps pour se faire une idée parce qu'on a trouvé que c'était nul. Oui. Eh, je suis pas parfait non plus. Hein. Mais voilà, ça mettait trop de temps à démarrer pour nous, l'histoire, donc ça ne nous a pas accrochés. Mais est-ce que parfois on n'a pas encore, à cause du passé de l'esclavage, de la colonisation, du racisme, et à la fois des personnes blanches vers des personnes noires et vice-versa, est-ce qu'on n'a pas des fois encore des choses qui restent, qui nous séparent et qui nous empêchent de vivre vraiment la communion ? Christ, il a offert un même salut à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, eh bien, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, il ne dit pas que juif et grec, ça n'existe plus, ou alors qu'on est tous neutres et qu'il n'y a plus d'hommes et plus de femmes. Mais il dit, devant le salut, devant Christ, dans son peuple, on est tous égaux, parce qu'on a tous été sauvés de la même manière. Et nous, des fois, on ramène des choses de notre culture et on se resépare, alors qu'il a fallu que Christ meure pour qu'on soit plus séparés. L'héritage de ce qu'on a reçu de nos ancêtres, et il y a des choses bonnes qu'on reçoit, hein, de notre culture et tout, hein, mais ça ne devrait jamais amener aucune division dans l'Église. Et c'est pour ça que moi, le film de Black Panther, il me gêne, parce que il fait croire que c'est le fait d'être africain, d'être noir, qui donne notre valeur. C'est du pipeau. Je vous ai dit plusieurs fois en rigolant, hein, moi je suis pas parfait, mais je suis alsacien, c'est presque pareil, hein. Bah des fois, c'est ça un peu. Ah, mais t'es noir, du coup, t'as quelque chose en plus. Et puis, le reste, hein, il est vrai aussi, le discours dans le sens inverse. Hein. T'es blanc, donc t'as quelque chose de plus. Sois fier. Et après, ça donne des mouvements totalement incongrus de racisme et de choses horribles et terribles. Mais Dieu, il promet mieux qu'un espèce de black power renouvelé. Il promet qu'on ait des nouvelles créatures. Et qu'un jour, l'image de Christ, elle sera totalement renouvelée en nous. Alors, je ne dis pas, il ne faut pas s'intéresser à sa culture, à ses ancêtres ou quoi, mais il ne faut jamais mettre ça au-dessus de Christ, au-dessus de ce qu'on est en Jésus. Tout comme moi, je ne mets pas au-dessus de ce que je suis en Jésus le fait que je suis alsacien. Et s'il y a des choses qui nous empêchent de regarder l'autre avec amour, eh bien, il faut qu'on demande à Christ de les enlever, parce qu'elles ne sont pas normales, ces choses. Elles ne sont pas normales. Vous savez, hein, dans ce film, il y a ce fameux Wakanda Forever. Hein, cette promesse que le pays du Wakanda, ce beau royaume, c'est pour toujours. Si le Wakanda existait, il disparaîtrait à la rédemption de la terre et des cieux. Je ne veux pas blesser ceux qui ont aimé ce film. Je ne m'oppose pas à la qualité cinématographique ou quoi. Mais c'est juste qu'il faut bien qu'on réalise qu'il y a peut-être des choses qu'on véhicule avec nous et dont on se revendique et on se dit « ça, c'est génial !» Et que si Christ venait, il dirait « ah, c'est ça qui te définit !» Dieu, il nous promet un meilleur pays, un meilleur royaume que le Wakanda. Il nous promet qu'un jour la terre et les cieux seront renouvelés, que nous vivrons éternellement dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la promesse qui est la nôtre, elle est pour nous. Noir, blanc, jaune, ce que vous voulez, elle est pour nous. Alors, tous, blancs et non-blancs, africains, antillais, etc., regardons profondément, sincèrement dans notre cœur Demandons à Dieu, est-ce qu'il ne reste pas peut-être pour moi quelque chose de l'esclavage, de la colonisation, du racisme ou d'autres choses encore que je n'ai pas citées qui m'empêchent de vraiment regarder mon frère, ma sœur comme un égal ? Et si moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, plus que votre pasteur d'ailleurs, en tant que votre frère, si un jour je vous ai blessé, si j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui vous a paru être, je ne sais pas, pas bien, pas correct, venez me voir et je vous demanderai pardon. Parce que si je l'ai fait, ce n'était pas volontaire, je ne le voulais pas. Demandons à Dieu de nous aider à porter un regard réaliste sur notre famille. Bah oui, je pourrais regarder que les côtés négatifs de ma famille. Mais ce serait malheureux, parce que ce n'est pas ça ma famille. Puis je pourrais aussi regarder que les côtés positifs, sauf que ce ne serait pas réaliste non plus, parce que ma famille, ce n'est pas que des choses positives. Il y a eu plein de gens qui n'étaient pas chrétiens dans ma famille avant. Est-ce que je suis convaincu que Dieu, il peut accomplir son plan pour ma vie ? Jésus, il n'a pas dit « Oh là là, Manassé, oh Rab, mais pourquoi cette... pourquoi ?» Christ a fait confiance à Dieu, à son Père, que Dieu allait accomplir le plan pour lequel il l'avait envoyé. Dieu savait pourquoi son Père l'avait envoyé. Christ savait pourquoi son Père l'avait envoyé. Christ voulait venir accomplir cette mission. Et il n'a pas regardé aux gens qui l'ont précédé pour faire confiance à Dieu, pour aller là où Dieu voulait qu'il aille. Est-ce que moi, je crois que même si aujourd'hui je suis cabossé ou autre, est-ce que je crois que Dieu peut quand même déjà m'utiliser, mais qu'en même temps qu'il va m'utiliser, il va me redresser, il va me délivrer, il va me guérir, il va me purifier jour après jour ? Est-ce que je crois vraiment à ça ? Ou est-ce que je ne suis pas un peu dans cette position de non, je ne m'engage pas. J'attends d'être mieux. Hein ? Moi, je l'ai fait, hein, je l'ai dit. Je crois qu'on l'a tous dit à un moment dans notre vie. Hein. On s'est tous dit non, mais là, maintenant, ça ne va pas. Ben ouais, mais si on attend que tout aille bien, ben, il n'y a que dans l'éternité qu'on fera quelque chose, quoi. Dieu sait où nous en sommes. Il sait d'où nous venons. Il sait qui nous sommes. Il sait ce qui va bien dans notre vie et il sait ce qui ne va pas. Il se réjouit de ce qui va bien et ce qui ne va pas, il veut le changer. Mais il ne veut pas simplement attendre que tout aille bien pour nous utiliser. Et c'est aussi en nous utilisant que Dieu nous change et nous transforme. Je ne sais pas si j'aurais vraiment réalisé que j'avais ces problèmes de toujours être négatif envers ce que les autres faisaient si je n'étais pas devenu pasteur. Peut-être que je n'aurais pas réalisé, ou autrement, ou pas tout de suite. Dieu sait comment nous utiliser pour sa gloire malgré nos imperfections, et pendant le même temps, eh bien, il nous en délivre et il forme l'image de Christ en nous. L'idée, ce n'est pas de dire « Ah, Dieu, il nous utilise comme ça, bon, c'est bon, hein. Pourquoi s'embêter à changer alors ? Si Dieu m'aime comme ça, ben je reste comme ça. » Ben non. Dieu, il m'a aimé malgré ce que j'étais, mais il ne veut pas que je reste dans ce que je suis. Dieu veut me transformer pour que je ressemble à l'image de Christ. Dieu, il a préparé d'avance pour nous des œuvres bonnes pour qu'on les accomplisse. C'est extraordinaire, cette promesse. C'est extraordinaire. Dieu a préparé des œuvres bonnes pour qu'on les accomplisse. Notre destinée, c'est d'accomplir les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. Quand Christ est mort à la croix, Dieu connaissait le moment, le moyen, la manière dont on allait venir à lui. Il savait nos imperfections, il savait nos mauvaises décisions, il savait tout ce qui allait être pas génial dans notre vie. Et pourtant, il a prévu pour nous des œuvres bonnes pour qu'on les accomplisse avec son aide, par son esprit, tout en nous changeant, en nous transformant, en nous délivrant, en nous libérant des choses qui ne sont pas bonnes en nous. Dieu ne veut pas qu'on reste dans notre péché et en même temps, tout en nous délivrant de notre péché, il veut qu'on travaille pour qu'on fasse ses œuvres bonnes. Soyons prêts à regarder et à dire aussi, Seigneur, je te remercie parce que tu as fait déjà tellement de choses. Moi, je veux te glorifier pour ça. Et je veux que tu m'aides pour que les autres choses qui ne sont pas à ta gloire, elles disparaissent. Peu importe ma famille, peu importe mes ancêtres, les gens qui m'ont précédé. Si je regardais à mon grand-père paternel, ben, je ne serais pas votre pasteur parce que je serais raciste. Et puis si je regardais à ma grand-mère maternelle, ben, je serais notaire. Alors, je ne serais pas non plus avec vous ici. Faisons confiance à Dieu, que Dieu sait vers quoi il nous amène, il sait comment nous y amener et il sait ce qu'il doit changer en nous. Bien mieux que nous-mêmes, nous le savons. Je vais prier pour conclure. Père éternel, tu nous as accordé cette grâce extraordinaire en Jésus-Christ de devenir tes enfants. Tu as écrit, préparé pour nous une destinée extraordinaire, des œuvres bonnes pour qu'on les accomplisse et nous voulons nous réjouir de cela. Nous voulons marcher dans le chemin que tu as tracé pour nous. Nous reconnaissons que nous sommes imparfaits, mais nous reconnaissons aussi que par l'œuvre puissante de ton esprit en nous, tu nous changes et tu nous transformes pour nous rendre semblables à l'image de Christ. Je te prie pour que tu nous montres, que tu me montres à moi en tout premier, tout ce qui ne va pas encore dans ma vie, que j'ai peut-être hérité, reçu des personnes qui m'ont précédé, les choses vraiment spirituelles comme les oppressions, etc. Et aussi les choses qui sont voilà, des raisonnements, des manières de faire, des habitudes dont elles me paraissent normales, mais qui peut-être ne le sont pas. Et je te prie que tu fasses aussi cette grâce à mes frères et à mes sœurs de voir ces choses-là, pour qu'ils puissent eux aussi progresser encore plus avec toi, Seigneur. Parce que ton désir, ce n'est pas qu'on reste là où on en est, mais c'est qu'on avance, c'est qu'on progresse. Qu'on puisse regarder tout ce que tu as déjà accompli et se dire merci Seigneur parce que c'est extraordinaire ce que tu as fait. Et qu'on puisse se dire mais du coup puisque tu as déjà fait ça mais tu es capable de faire encore plus de choses en moi, tu peux aller encore plus loin, tu peux m'amener encore plus loin, tu peux former des choses encore plus grandes en moi. Qu'on soit encouragé par tout ce que tu as fait Père éternel pour nous au travers de ton Esprit Saint et de Jésus-Christ. Et que vraiment nous vivions cette vie de joie et de paix avec toi, parce que nous sommes tes enfants, tu nous as sauvés et nous pouvons nous tourner vers toi et te dire Abba, Père. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.